Bonjour et bienvenue dans Topcast, l'émission de podcast de l'Office de tourisme du Boulonnais-Côte d'Opale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, partager ce podcast, le commenter avec le hashtag au Top Côte d'Opale. Notre Topcast du jour s'intitule Napoléon sur les côtes du Boulonnais. En 1798, un jeune officier visite les ports de la côte, Boulogne, Ambleteuse, Calais. Sous un nom d'emprunt, il inspecte les infrastructures, discute longuement avec des marins de tout genre, y compris des contrebandiers, contrebandiers qui étaient présents en nombre sur nos côtes à l'époque. Cet homme, que le directoire a récemment nommé commandant en chef de l'armée d'Angleterre, est en réalité le général Bonaparte, et il a une mission: envahir l'île d'Angleterre. De retour à Paris, il rend un rapport pessimiste. Il déconseille cette opération, mais propose en revanche une expédition en Égypte. Les années passent, Bonaparte est revenu d'Égypte, il a renversé le directoire, et c'est en premier consul qu'il revient à Boulogne. Avant son départ pour l'Égypte, Bonaparte avait pris soin de donner pour consigne au général Caffarelli d'aménager les ports de la Manche en vue d'y rassembler une flottille d'invasion. On construit donc ici des petits bateaux légers capables de transporter les troupes et d'appuyer donc ces troupes sans attirer les feux anglais. Mais la paix entre la France et l'Angleterre est finalement signée à Amiens le 26 mars 1802, permettant un répit de courte durée, puisque la paix d'Amiens est rompue le 17 mai 1803 et immédiatement les armées quittent leurs casernes pour venir s'établir sur le littoral. Depuis la Bretagne jusqu'à la Hollande, mais c'est sur les côtes du Pas-de-Calais que ce rassemblement de troupes est le plus massif. Jusque 60 000 hommes, en plus des 15 000. Bienvenue pour certains, l'armée dépense sa solde, les aménagements des ports sont des apports de capitaux, tout comme la vente de nourriture pour cette armée, la vente de fourrage pour les chevaux, donc certains font des affaires. Mais d'autres, présence pour eux est synonyme de désagrément. La criminalité augmente, les habitants subissent la saleté, souvent l'ivrognerie, sans compter les bombardements anglais qui se font plus réguliers. Ça va modifier un petit peu la région. Quelques dignitaires bonapartistes viennent également s'établir dans l'arrière-pays et ils amènent avec eux des distractions qui étaient jusqu'alors inconnues dans la région, comme le théâtre ou les fêtes. C'est en quelque sorte l'introduction d'une vie mondaine à Boulogne, et cette vie mondaine va perdurer, pour d'autres raisons, durant tout le XIXe siècle. Et le point d'orgue de cette présence de l'armée napoléonienne dans le Boulonnais est la grande remise de la Légion d'honneur. Le monde entier connaît la défaite de Trafalgar, qui acte la suprématie de la marine anglaise sur la flotte napoléonienne. Mais il y eut, quelques années auparavant, la bataille de Boulogne, en août 1801, au cours de laquelle les Français tinrent en échec les troupes de l'amiral Nelson. Certains historiens pensent que c'est en récompense de cette victoire et en guise d'encouragement pour la suite que le tout récemment sacré empereur crée en 1804 la Légion d'honneur. Le 16 août, il rassemble dans un immense amphithéâtre naturel face à la mer, le vallon de Terlinctin, près de Boulogne, 80 000 hommes. Et durant près de 7 heures d'une cérémonie grandiose, Napoléon remet lui-même 2000 insignes. Ney, Soult, Vandamme, Suchet, Cambronne figurent parmi les noms des prestigieux décorés de cette journée. On la commémore encore de nos jours. Alors il faut apporter une petite précision. Il s'agit en réalité de la première remise de la Légion d'honneur à titre militaire. Une cérémonie plus modeste avait eu lieu le 15 juillet aux Invalides. Et au soir du 16 août 1804, donc au soir de cette grande remise de la Légion d'honneur, par acclamation, les troupes vont voter et réclamer la construction d'une colonne de marbre de 50 mètres de haut à la gloire de l'empereur, colonne qu'on connaît bien aujourd'hui encore dans le Boulonnais. Avant de recevoir nos invités, disons quelques mots de la vie quotidienne de Bonaparte pendant le camp de Boulogne. En juin 1803, Bonaparte avait chargé l'amiral Bruix de lui trouver une résidence dans la région. Bruix lui loue une gentilhommière à la campagne à proximité du village de Pont-de-Briques. Et c'est ici qu'on va donc installer au château de Pont-de-Briques le quartier général du camp de Boulogne. Pratique, car sur la route de Paris, à 24 heures de Berline, est suffisamment isolé pour assurer également sa sécurité. On craint pour sa sécurité, son mamelouk, Roustan, dort en travers de sa porte. Et il l'aide à s'habiller, c'est un aide de camp, mais il fait office aussi de garde du corps. On redoute les espions anglais et on redoute aussi les complots royalistes. La nuit, l'empereur travaille, la journée, il visite les troupes. Et lors de ses visites, on peut dire qu'il ne craint pas le contact avec la population. On le voit facilement entrer dans des chaumières sous prétexte d'écrire des ordres ou se rendre aux endroits où les gens se rassemblent, comme il est d'usage à cette époque, la petite pompe du coin. Hein. Ces rencontres avec la population sont le moyen d'écouter, sont le moyen de parler et de découvrir, connaître les attentes, les peurs de la population. Alors l'histoire ne dit pas si celui qui a grandi avec la mélodie de la langue corse comprenait facilement le patois boulonnais. Mais on sait qu'interpellé par une porteloise qui se plaignait de ne pas avoir reçu d'aide quand sa maison avait été incendiée par des boulets anglais, il ordonna qu'on la dédommage et produit le soir même un décret instituant les dommages de guerre, un décret que les habitants réclamaient depuis longtemps. Alors, cet épisode montre qu'il ne fait pas seulement la guerre ici, mais il gouverne, il tient les rênes de l'État. D'ailleurs, 1500 décrets, des décrets de politique intérieure ou relatifs à l'administration ou aux affaires étrangères, auront été signés pendant sa présence au château de Pont-de-Briques. Napoléon lève précipitamment le camp le 2 septembre 1805 et dirige sa grande armée vers Austerlitz. On a toutes les raisons de penser que cette incroyable expédition a été en grande partie préparée depuis le château de Pont-de-Briques. Laurence Moignon, vous êtes membre du Centre d'études napoléoniennes et conférencière. Vous faites des conférences très intéressantes qui ont trait plutôt à la vie quotidienne de Napoléon au camp de Boulogne, mais pas seulement, vous allez nous en dire un petit peu plus. Et Daniel Vazer, vous êtes le vice-président du Centre d'études napoléoniennes. C'est une association napoléonienne assez ancienne, puisque je crois que dans les années 60, elle a participé, contribué à sauver le château de Pont-de-Briques.
Oui, tout à fait. Elle a été créée en 1966 par Fernand Beaucourt, qui a été professeur justement en histoire et qui a permis de sauver un des derniers monuments où Napoléon a vécu le plus longtemps, c'est au château de Pont-de-Briques. Du fait que Saint-Cloud-les-Tuileries n'existe plus, il reste le château de Pont-de-Briques.
Oui, parce qu'on est ici dans les locaux de ce qu'on appelle le palais impérial, qui est en réalité l'hôtel des endroits. On est dans la vieille ville, la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer. Ce bel hôtel particulier, mais qui n'a pas été construit pour Napoléon, qui a été construit pour un vicomte qui avait des verreries ici dans la région de Marquise, qui s'appelait le vicomte des endroits. Et ce beau bâtiment où on se trouve a été, donc on va dire, réquisitionné pour quelques séjours, quelques courts séjours de Napoléon à Boulogne. On y reviendra tout à l'heure. Mais l'endroit où il a résidé le plus pendant le camp de Boulogne, c'est le château de Pont-de-Briques, justement.
Oui, tout à fait. Oui. On estime entre 80 et 100 jours.
Il a véritablement tenu les rênes de l'État, tenu les rênes de la France. Il a gouverné.
Oui, parce qu'en fait, les séjours de Napoléon à Pont-de-Briques correspondent effectivement au camp de Boulogne, à peu près sur la période 1803-1805, à cheval sur le consulat et l'Empire. Et comme Napoléon est venu en tant que Bonaparte, d'ailleurs en tant que premier consul, l'administration, en fait, le suivait. Et ce qui lui permettait de gouverner la France depuis Pont-de-Briques. Et de là, il a effectivement édité de nombreux décrets.
C'est quelque chose qui l'obsédait, ça, l'invasion de l'Angleterre.
Oui, et d'ailleurs, même si à la même époque, il y avait beaucoup d'autres sujets, le code civil, le sacre, la proclamation de l'Empire, le camp de Boulogne était dans les pensées du premier consul devenu empereur. Et d'ailleurs, c'est son secrétaire qui s'appelait Menval qui le dit dans ses écrits. Que Napoléon était très. Son énergie était dirigée vers le camp de Boulogne, vers le projet en fait qui était d'envahir l'Angleterre à ce moment-là.
Et pour compléter, il faut savoir que pendant cette période-là, systématiquement, dès qu'il y avait une coalition, c'était les Anglais qui finançaient cette coalition contre la France, pour tuer les idées de la révolution, quoi.
Malbrook s'en va en guerre, Miroteau, Miroteau, Mirotaine. Malbrook s'en va en guerre, le sec reviendra, le sec reviendra, le sec reviendra.
Le monde entier connaît la bataille de Trafalgar, mais on pourrait aussi faire connaître dans le monde entier cette fameuse bataille de Boulogne en 1801.
Oui, tout à fait, oui. Il est venu à plusieurs reprises et à chaque fois il est pris en échec, quoi. Il y a même un livre qui a été sorti il y a quelques années, c'était Échec à Nelson devant la reine de Boulogne.
On s'en rend bien compte quand on est un petit peu sur le territoire du Boulonnais. Et ce que je vais vous demander, c'est de nous donner vos lieux un petit peu coup de cœur dans le Boulonnais, les lieux que les visiteurs où les visiteurs peuvent aller pour se retrouver dans les pas de Napoléon. Et Daniel, le lieu le plus évident pour moi, puisqu'on parle de cette bataille et puis qu'on parle de la remise de la Légion d'honneur, etc., c'est le site de la Poudrière qui domine la plage de Boulogne, où se trouve le calvaire des marins actuellement, et tout le détroit du Pas-de-Calais. Est-ce que pour vous c'est la même chose, c'est votre lieu emblématique?
Et bien sûr, c'est une vue exceptionnelle, d'autant plus lorsque vous êtes à côté de la Poudrière, vous êtes à l'emplacement où il y avait la baraque de l'empereur. Et même en face, vous voyez le dernier vestige qui protégeait la rade de Boulogne, c'est le fort de l'Eure. Et vous avez aussi sur votre gauche le bassin Napoléon, qui a abrité à peu près 2000 bateaux, 1200 bateaux, excusez-moi.
D'accord, donc ça c'est le bassin Napoléon qui donne encore sa forme actuelle, hein, de Boulogne, plus ou moins.
Oui, tout à fait.
On dit, de manière anecdotique, que le port est en forme du bicorne de l'empereur, mais ça, je pense que c'est plus pour...
Ouais, c'est plutôt une légende, il n'était pas tout à fait en forme de bicorne, quoi.
Non. Mais en tout cas, c'est, on peut dire, un peu grâce à Napoléon et grâce à son passage, que Boulogne est un port de pêche aussi important aujourd'hui.
Oui, tout à fait, oui. Sans ce bassin, avant justement l'arrivée du camp de Boulogne, les bateaux échouaient justement sur les plages, les bateaux de pêche ou ça. Tandis que grâce à cette construction, ça permet à l'évolution du port et amener plus de bateaux au bord, qu'on appelait ça à cette époque-là.
Et pour compléter, Daniel, d'ailleurs, c'est Napoléon III, le neveu de Napoléon, qui a restructuré le bassin Napoléon pour en faire un bassin à flot, dans les années 1850 à peu près.
À l'époque, on va s'intéresser aux transatlantiques et aux grands voyages. Voilà. Laurence, je vous ai pas demandé vos lieux coup de cœur sur Napoléon, les lieux où vous emmèneriez des visiteurs.
Alors, c'est vrai que le lieu qui se visite peut-être le mieux, sur lequel il y a le plus de visites, c'est l'hôtel des Androins, qui est dans la vieille ville de Boulogne, où nous sommes. On peut également visiter le musée de Boulogne, où il y a quelques objets qui sont exposés. Puis, la stèle de la Légion d'honneur, tu veux peut-être en dire un mot, Daniel?
Oui, la stèle de la Légion d'honneur, qu'on appelle la pierre Napoléon, c'est l'emplacement du trône de la remise de la Légion d'honneur. Il n'a jamais été égalé, il y a quand même 2000 soldats et civils qui ont reçu la Légion d'honneur, la main propre de l'empereur. Et il y avait une armée à peu près de 100 000 hommes face aux 30, quoi.
Mais alors ça, c'est accessible facilement. On peut s'arrêter puis aller faire une petite balade jusqu'à la pierre Napoléon. Et là, on se trouve au milieu, on peut s'imaginer empereur, hein, puisqu'on se trouve au milieu d'un amphithéâtre naturel, le vallon de Terlinctin, où paraît-il étaient rassemblés 80 000 hommes ou...
Entre 80 et 100 000.
80 et 100 000.
Ouais. Oh, oui, tout à fait.
C'est quand même... Et le lieu s'y prête. Hein. Et ouais. Dans la perspective, quand on est devant cette stèle Napoléon, qui est l'emplacement du trône de l'empereur pour la remise, on voit cette grande colonne de marbre d'une cinquantaine de mètres de haut et qui aurait été décidée par acclamation le soir même de la remise.
C'est le maréchal Soult qui a lancé l'idée, la souscription. Chaque soldat a versé une participation pour marquer l'événement. C'est quelque chose qui n'a jamais été égalé. Ouais. Il faut s'imaginer aussi, il y avait rassemblé plus de 4000 tambours. Oui, ça devait résonner, ça devait être incroyable. Plus les tirs d'artillerie pour marquer l'événement, quoi. Et la cérémonie a duré quand même plus de 7 heures. Alors c'est quelque chose qui n'a jamais été renouvelé, refait à une telle ampleur, quoi.
Alors aujourd'hui, on peut la visiter, cette colonne de la Grande Armée. Bon, il y a un petit musée aussi à l'entrée du site, avec des légions d'honneur, avec l'ancienne statue. Les visiteurs le découvriront sur place, mais ce n'est pas la statue d'origine qui est au sommet de la colonne, mais c'est la première statue qu'on doit au sculpteur Bozio. Et on peut monter là-haut, et là-haut, on a une vue plus qu'imprenable, on a une vue formidable sur toute la région, sur les côtes anglaises.
Ah ouais, ouais. Donc, et si on a de la chance que c'est découvert, effectivement, on voit venir les côtes anglaises, quoi.
On voit cette région, quand on est là-haut, au sommet de la colonne, ce Boulonnais qui a été marqué. Il y a encore beaucoup de témoignages aujourd'hui du passage de Napoléon. notamment dans le nom des rues aussi.
Oui, bien sûr, le nom des rues, mais aussi au cimetière de l'Est. Vous avez des pierres tombales, je vous donne un exemple, le colonel Dupuis, lui, il a fait les deux empires. Il est mort à Sébastopol, sous le Second Empire, quoi. Mais il a connu, il a fait la campagne de France en 1814. Après, vous avez le soldat Mamelin, vous avez le colonel Sansot, et forcément le fameux baron Bucaille.
C'est du patois boulonnais, ça, Bucaille.
Ça veut dire quelqu'un qui frappait fort. Qui buquait et il tapait fort. De toute façon, lorsqu'on voit son portrait qui est en mairie de Boulogne, vous voyez ses mains. Ses mains étaient énormes. Et il y a des témoignages qui disaient qu'il donnait un coup, la personne tombait. Quoi.
Jacques Oudard Fourmentin, voilà. C'est le baron Bucaille. Une petite précision, Laurence, vous parliez du cimetière de l'Est. Il se visite aussi avec le service de Ville d'Art et d'Histoire. On propose aussi des visites guidées pour en savoir plus sur ce cimetière de l'Est.
Et donc, dans l'arrière-pays aussi, enfin, un petit peu plus éloigné de Boulogne, on a ce fameux château de Pont-de-Briques dont on parlait tout à l'heure. Alors, le château qui ne se visite pas, bon, éventuellement sur demande, passant par l'office de tourisme, on pourra peut-être faire quelques visites comme ça à la demande, mais bon, voilà, le château ne se visite pas d'ordinaire, mais par contre, on invite toutes les personnes qui souhaitent visiter le château de Pont-de-Briques venir le troisième week-end de septembre de cette année, où en fait, lors des journées du patrimoine, l'association fait des visites commentées, mais aussi va proposer cette année une exposition sur le thème de la flottille. Et donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, nous avons toujours beaucoup, beaucoup de monde aux journées du patrimoine, puisqu'en fait, on fait visiter les appartements qui ne sont pas meublés malheureusement, mais les visites commentées permettent justement de faire jouer l'imagination et d'imaginer donc la vie quotidienne de Napoléon telle qu'elle se déroulait au château de Pont-de-Briques. On peut voir sa chambre, salle où il y avait son bain, son salon, son cabinet de travail, etc. Et donc, c'est très intéressant et on a beaucoup de succès lors des journées du patrimoine parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de visiteurs aiment l'histoire napoléonienne et on a beaucoup de plaisir à partager notre passion avec eux.
Et le territoire boulonnais en est riche de vestiges et de témoignages napoléoniens. Vos conférences, on peut les retrouver sur YouTube également. Hein. Je pense qu'en tapant Napoléon dans le boulonnais, vous arrivez parmi les premières occurrences.
Oui, alors en fait, c'est sur la chaîne du Bulldog du Boulonnais, très précisément. C'est sur une chaîne YouTube et vous allez trouver mes deux dernières conférences, l'une qui est consacrée donc à la vie quotidienne de Napoléon au château de Pont-de-Briques et l'autre plus récente sur Napoléon, Eugène et Hortense au camp de Boulogne.
Beau programme. Merci à vous deux. Et pour vous quitter, je vais vous demander, comme ça, brûle pour point, une chanson pour illustrer ce qu'on vient de se dire. Daniel ?
Moi, je prendrai celle que l'empereur chantait, Malbrouck, ça va t'en guérir.
Et moi, alors, je vais prendre le chant du départ qui est systématiquement joué lorsqu'il y a des commémorations. Justement, on parlait de la stèle de la Légion d'honneur en général tous les premiers week-ends de septembre. Et c'est ouvert, tout le monde peut venir. Il y a une commémoration qui a lieu à la stèle et on joue bien entendu la Marseillaise, mais aussi le chant du départ qui était un chant révolutionnaire et napoléonien.
Eh bien, nous allons nous en servir pour illustrer ce Topcast. Merci beaucoup. Que ce Topcast vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag Autocode d'Opale et à bientôt pour un nouveau sujet.